Elle est en studio, elle s'appelle Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice aussi du projet Intercom. Bonjour Roxane.
Allô Hélène.
Roxane, alors présentez-nous votre sujet.
Oui, j'ai préparé cette chronique avec Mégane Dussault, une étudiante dans l'un de mes cours. Donc, c'est une étudiante à la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal. Puis, elle s'intéressait à la grossophobie et puis le lien avec la télé-réalité. Donc, on s'est dit qu'on allait écrire une chronique ensemble. Donc, ça porte sur la différence de poids corporel dans les émissions de télé-réalité.
Ah! Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'imagine que oui.
J'espère, parce que ça serait une très courte chronique aujourd'hui.
On n'en saurait pas beaucoup.
Non. Bye-bye! Donc, en Occident, comme vous le savez, l'obésité est en forte augmentation, notamment au Québec, où les taux ont presque doublé entre 1987 et 2014. Donc, dans ce contexte, le concept de grossophobie a émergé. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des comportements, donc c'est un comportement qui a pour but de discriminer, dénigrer, humilier, culpabiliser les personnes qui sont considérées comme obèses ou en surpoids. Donc, les émissions de télé-réalité qui présentent des scènes de vie, de la vie réelle, bien qu'elles soient souvent scénarisées, ont été critiquées pour leur représentation de personnes considérées comme obèses ou en surpoids, parce que souvent, elles mettaient fréquemment en scène des scènes de manière caricaturale.
Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par des représentations caricaturales?
Bien, il y a des analyses de contenu qui ont été faites, qui examinent ce qu'on voit, ce qu'on entend à l'écran, et qui ont démontré que certaines émissions de télé-réalité présentent des personnes considérées comme obèses ou en surpoids dans des scènes associées souvent à des mensonges sur leur santé, de la nudité, des insultes, des angles de caméra sexualisants, puis et même de la gloutonnerie. Ces résultats de ces recherches sont cohérents avec d'autres recherches aussi sur les contenus télévisuels, en général qui suggèrent que les personnes considérées comme obèses ou en surpoids sont souvent moins montrées avec des partenaires romantiques ou amicaux, moins attirants, donc plus souvent représentées en train de manger que des personnes de poids moyen. Donc, ces contenus renforcent les représentations de ces personnes comme étant soit hyper sexualisées, grotesques, puis puisque ces représentations ne reflètent pas la diversité, donc elles peuvent être définies comme des stéréotypes, c'est-à-dire des idées qu'on a toutes faites, des images caricaturales qui influencent négativement notre façon de percevoir les gens, d'interagir avec eux et de les traiter.
Bon, alors on comprend que dans les téléréalités, les représentations des personnes considérées comme obèses ou en surpoids sont caricaturales, mais ça reste quand même du divertissement.
Oui, c'est sûr, ces émissions peuvent nous divertir. Moi-même, j'en écoute des émissions de télé-réalité. Donc, certaines ont des audiences de centaines de milliers de téléspectateurs par épisode. Ils cumulent les millions de visionnements sur YouTube. Toutefois, ce divertissement, il a le pouvoir de façonner notre vision du monde aussi. Donc, on est influencé par ce qu'on voit, ce qu'on entend autour de nous. Si on prend, par exemple, l'émission « Qui perd gagne », donc c'est une émission de télé-réalité américaine où il y a 14 personnes qui concourent pour un prix de 250 000 $ en visant la plus grande perte de poids à l'aide d'un entraînement intensif puis d'une diète stricte. Ouais.
J'ai jamais vu cette émission.
Bien, j'en ai déjà entendu parler, oui, c'est ça. C'est quand même assez populaire.
Ça doit.
Oui, et là, je crois que l'émission a maintenant arrêté, mais on peut retrouver les épisodes là, sur YouTube, tout ça. Donc, il y a une étude scientifique qui a séparé en deux groupes des étudiants et étudiantes de premier cycle en psychologie d'une université américaine de l'Ohio, donc l'Université d'État de Bowling Green. Donc, un groupe visionnait un épisode de Gagne et l'autre groupe, un documentaire sur la nature. Donc, les chercheurs ont pu déterminer que les personnes qui avaient visionné Qui perd gagne avaient une plus grande aversion envers les personnes considérées comme obèses ou en surpoids. Ils croyaient aussi davantage que la perte de poids était contrôlable, contrairement aux personnes qui avaient visionné le documentaire sur la nature. aussi...
Mais c'est le concept de l'émission. Hein?
Oui, oui, mais c'est de ressentir une aversion envers ces personnes-là. Parce qu'on pourrait avoir une émission, tu sais, si les représentations sont mieux faites de ces personnes-là, moins stéréotypées, moins caricaturales, peut-être qu'on n'aurait pas cette aversion-là.
Tout à fait, là, c'est comme si le concept encourageait cette aversion.
Exactement. Donc, cette aversion aussi est plus forte chez les étudiants qui ont un poids moyen ou qui n'ont pas l'intention de maigrir. Donc, il y a vraiment une histoire ici. On a deux groupes, les personnes en surpoids ou obèses, puis les personnes de poids moyen ou qui n'ont pas besoin de perdre de poids. Donc, on revient à un concept qu'on a souvent abordé ici, donc le biais pro-endogroupe, ça veut dire qu'on favorise notre propre groupe. Donc, on considère les personnes qui sont différentes, bien, c'est-à-dire on a tendance à favoriser les personnes qui nous ressemblent. Ouais.
Donc, si on auxquelles on s'identifie.
Auxquelles on s'identifie. Il y a une autre étude aussi qui a été menée avec des adolescents, des adolescentes. Donc, encore là, on les a divisés en deux groupes. On s'est assuré que les groupes étaient équivalents. Donc, les groupes visionnaient des courts extraits, soit d'une des versions de Keeper Gang qui présentait des personnes adolescentes, ou soit un magazine scientifique télévisuel. Donc, les chercheurs ont décelé que les réactions automatiques négatives envers les personnes considérées comme obèses ou en surpoids, donc étaient plus élevées chez les personnes adolescentes qui avaient visionné Keeper Gang comparativement à ceux qui avaient visionné un extrait d'un magazine scientifique télévisuel. Donc, ces personnes qui avaient visionné ce Keeper Gang trouvaient davantage que les images des personnes considérées comme obèses ou en surpoids étaient désagréables. En plus, dans cette étude, les personnes adolescentes craignaient de devenir obèses. Donc, ça a amené... Donc, après avoir visionné Keeper Gang, ils exprimaient aussi plus de jugement envers les personnes considérées comme obèses que celles ayant visionné le magazine télévisuel. Puis aussi, ils croyaient fortement que les personnes obèses n'étaient pas capables de contrôler...
Ouais.
De se contrôler.
Pas très sain. Hein? Ces émissions peuvent avoir un effet sur le public. Là, vous venez de nous l'exposer. Est-ce que ce sont ces effets que vous définissez comme de la grossophobie, Roxane?
Bien, la grossophobie, pas nécessairement, parce que la grossophobie, c'est vraiment un comportement comparativement à une idée ou à une émotion ou une réponse automatique, une pensée. Donc, c'est vraiment un comportement. Les pensées, les émotions sont plus internes. T'sais, on peut penser ici au dégoût, à l'irritation, à de l'aversion. Donc, c'est vraiment un biais affectif qu'on a. Par contre, quand on exprime notre jugement, par exemple, sur le caractère contrôlable du poids,
ouais.
Bien, ça se rapproche de la grossophobie parce que là, la personne peut se sentir mal, elle peut se sentir coupable, elle peut vivre une émotion. Des fois, le jugement peut se faire de manière implicite ou s'il n'est pas nécessairement direct. Une personne ne va pas nécessairement dire « toi, tu es grosse » ou « toi, tu es en surpoids », mais elle va peut-être « ah, tu manges encore ça ». Donc, ouais. Ça peut être plus subtil. Puis là, on se rapproche de la grossophobie parce que c'est un comportement qu'on émet, c'est un jugement.
Ça peut être aussi juste dans le regard.
Ça peut être juste dans le regard. C'est souvent ce concept de micro-agression qu'on aborde qui est plus subtil.
Mais qui fait tout aussi mal.
Qui peut faire tout aussi mal, ouais. En effet, surtout s'il y a un caractère répétitif de ouais. Ces micro-agressions. Donc, si je vois...
Ça devient une macro-agression.
Oui, ça
quand
peut...
Quand c'est répétitif.
Ça peut devenir... Je ne sais pas si le terme existe, non, mais on pourrait l'inventer, Hélène, si vous
c'est
voulez.
Déjà... C'est fait.
Puis, c'est important aussi de souligner la responsabilité des personnes qui produisent ces contenus télévisuels. Donc, ils contribuent à renforcer les stéréotypes à travers le choix des scènes qu'ils présentent. Parce qu'on peut s'imaginer ce type d'émission qui pourrait être plus axé sur la santé, plus sain,
ouais.
Mais c'est pas nécessairement ce qu'on retrouve. Donc, parce que souvent, on voit l'échec des personnes. Puis quand on voit cet échec-là, on va l'attribuer à la personne elle-même et pas nécessairement à la diète qui leur a été proposée ou à d'autres facteurs. Donc, c'est ce qui peut entrer en jeu aussi.
Alors, comment limiter les effets de ce type de réalité sur le monde, sur le public?
Les équipes de production pourraient vraiment tenir compte de ces représentations négatives, de l'influence qu'ils ont.
De réfléchir avant d'aller de l'avant.
Oui, peut-être, de vraiment penser à ça. On a souvent parlé des émissions de télé-réalité comme un nivellement vers le bas, une normalisation vers le bas. Donc, peut-être de réfléchir à ça aussi quand on produit des émissions de télé-réalité.
On pense beaucoup à code d'écoute aussi. Hein?
Oui, mais c'est peu probable que ça arrive.
Ouais.
Donc, je ne veux pas être pessimiste. Donc, ça
Vous
revient,
êtes réaliste.
Ça revient souvent, encore une fois.
Vous êtes téléréaliste.
OK, je ne l'avais pas compris.
Non, moi non plus, je viens de la faire.
C'est trop rapide ce matin, là. C'est vraiment au public d'adopter un regard critique envers ce qu'ils voient. Puis ça, c'est pas facile tout le temps non plus. On écoute ça, on réfléchit pas
trop. On est responsable.
Oui, on est responsable d'avoir ce regard critique-là. Aussi, de se rappeler que la télé-réalité, ça reflète pas toujours la réalité, que c'est scénarisé.
Ça demande la télé.
Ça demande la télé, puis souvent, ils refont les scènes, puis ils veulent avoir, comme vous dites, des codes d'écoute. Donc, et que finalement, les biais affectifs qu'on a sont souvent inconscients. Donc, d'en prendre conscience. Donc, c'est possible que j'ai une pensée plus négative envers une personne en surpoids si je la vois manger, par exemple. Mais est-ce que je vais lui dire ou est-ce que je vais plutôt me dire, ben voyons, pourquoi j'ai pensé ça? Mm-hmm. Puis avoir un genre d'introspection envers moi-même pour essayer de travailler ces représentations pour qu'elles ne soient pas néfastes à long terme pour les personnes qui sont en surpoids ou des personnes obèses.
Rester critique par rapport à ce genre d'émission-là et empathique aussi par rapport aux personnes que l'on voit peut-être, manger de façon outrancière, mais il y a souvent quelque chose qui se cache derrière ça.
Oui, bien, il y a plusieurs facteurs. Puis ça, j'ai pas cette expertise-là non plus. Mais
moi non plus.
C'est vraiment de... Puis ça, on parle de biais ici envers des personnes obèses ou en surpoids, mais c'est la même chose par rapport à la diversité sexuelle, par rapport à la diversité, les minorités visibles, par exemple. Souvent, on a des idées préconçues. Mm-hmm. Fait que c'est toujours de se ramener à soi ou à notre groupe, hein, notre groupe auquel on appartient, puis de se dire, ben est-ce que ces personnes-là sont si différentes de moi? Puis qu'est-ce qui se rejoint pour essayer justement de... Puis quand on fait ce travail de réflexion-là, souvent on se rend compte que ben finalement, elles sont beaucoup plus pareilles que moi que différentes.
Alors, c'est sur ces bons mots qu'on va se laisser, des mots pleins de sagesse et d'intelligence. Merci beaucoup, Roxane de la Sablonnière, et j'en profite pour vous souhaiter un merveilleux été.
Merci, vous aussi.
On se retrouve en septembre, j'espère bien.